Faites écouter les gens, allez-y.
J'adore ça, moi je sors tout le temps.
Mais putain, ça sortez de chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, les touches de sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. Oui, c'est trop intéressant. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez,
c'est quoi. Sortez les gens.
Ok, vous voulez sortir.
Écoutez,
sortez.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis Samuel et je suis accompagné de mon acolyte de tous les jours, Marie. Bonjour Marie.
Bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 4 invités, enfin plutôt 5 aujourd'hui, réunis autour d'un projet d'un groupe d'étudiants en but carrière sociale UT de Tournord. Ce projet a pour objectif de sensibiliser un jeune public au handisport. Avec nous aujourd'hui, Mathis Pinault et Yulan Touvron. En but carrière sociale, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Manon Le Noël, Benjamin Saglio et Nesta Fernette du club Bulldog Handibasket de Chambry-les-Tours. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Salut.
Bonjour.
Et donc on va commencer par vous deux, Yulan et Mathis. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer dans quel contexte ce projet s'est fait et d'où vous est venu ce souhait de sensibilisation?
Alors déjà... on peut dire que, comme vous avez dit, on est du BUT de Tournord. Et on est donc des étudiants qui avons comme projet, pour la plupart, d'être dans l'animation, et notamment auprès de publics, on peut dire, différents. Et ça nous est venu, du coup, de partir plutôt sur tout ce qui est handisport, puisque nous avions beaucoup de gens, puisque au départ, nous sommes un groupe de 7. Et là, nous sommes que 2, mais nous avions comme projet de pouvoir sensibiliser notamment les collégiens, du coup, puisque nous avons une classe de 4e au collège à Saint-Pierre-des-Corps. Et nous voulions que ces collégiens puissent découvrir aussi, après tout ce qui est contexte de Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, puissent découvrir plus profondément ce qui existait. Et... nous sommes arrivés, du coup, à nos 7, à pouvoir plus ou moins collaborer avec le club de Chambray et pouvoir montrer à ces collégiens, du coup, tout ce qui était possible de faire. Et pour l'instant, ça se passe bien.
Oui, c'est ça, votre groupe, il est assez conséquent. Il regroupe pas mal de personnes. Pourquoi avoir choisi en particulier des collégiens?
Beaucoup d'entre nous avons travaillé avec des enfants. Et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir travaillé avec un public plus vieux de 11 ans. Entre 11 et 15 ans, on n'a pas trop travaillé avec ce public-là. Du coup, là, on a voulu tenter les collégiens. Et dans la recherche d'un public, c'est toujours très compliqué entre les refus, les structures qui ne nous répondent pas. Donc là, le collège Saint-Pierre-des-Corps était hyper ouvert. Donc on a vraiment foncé sur l'occasion. Et du coup, ça s'est fait un peu au feeling. Et les collégiens étaient aussi très chauds de le faire. Donc...
Avec le collège de Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps, c'est
ouais,
ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Quels ont été, du coup, les différents événements de ce projet d'animation ?
Pour commencer, on a pu rencontrer un professeur, donc Thomas Debord, qui est un professeur de sport. Et donc, ça a été le premier pas, déjà vers le public et vers le sport, puisque lui, tout ce qui était... handisport, les élèves que nous avons eus ont déjà, pour la plupart, ont été sensibilisés puisqu'ils sont partis à Paris pendant 3 jours, voir notamment de l'athlétisme handisport. Ils avaient déjà un pied dedans et on s'est dit que nous, en tant que jeunes étudiants, c'était quand même intéressant de pouvoir avoir, on va dire, une moitié de classe qui connaissait un petit peu le milieu et une moitié à qui il fallait faire beaucoup plus découvrir. On a, pour le coup... découvert et avec eux. Donc voilà, je pense que c'est la première phase, c'est déjà de découvrir le collège, mais aussi les clubs qui sont à côté, dont les Bulldogs du coup du club de Chambray, les Tours. Donc ça a été notre premier pas là-dedans, puisque pour la plupart, on n'était pas non plus nous initiés. Donc ça a été voilà un début. Et ensuite, ce qui s'est fait, c'est que on a eu la chance. Notamment par Thomas Debord, d'avoir un champ libre sur tout ce qu'on pouvait faire et d'avoir 2 heures tous les mardis après-midi, du coup, avec les collégiens. et de faire appel du coup à de nombreux intervenants qui eux aussi étaient très très encouragés à venir parler de leur passion auprès des collégiens. C'était, en fait, je pense que dans ce projet-là, on a eu beaucoup de chance d'avoir du champ libre et que des personnes qui étaient investies, en tout cas pour découvrir et pour performer là-dedans. Et je pense que sur tout notre parcours, on en restera bah, du coup enrichi par les rencontres. Et voilà. Donc, et dans une semaine, arrive notre temps fort. Notre temps fort qui se passe donc du coup dans un grand gymnase qu'on a aussi eu la chance de pouvoir avoir. Donc du début à la fin, qui arrive donc dans très peu, pendant 4 mois.
C'est le mercredi 17 décembre, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement, vous avez toutes les informations, donc c'est cool.
On a été bien documenté, ça va.
Donc voilà, en fait, sur tout notre parcours avec les collégiens, on s'est retrouvés avec des bonnes personnes et un très, de très bonnes conditions de travail et d'accomplissement du coup du projet.
Donc dans votre groupe, vous avez tous plus ou moins découvert le handibasket, c'est ça, en même temps que ce projet, ou vous étiez déjà familier à ce...
Eh ben, en fait, il y en avait parmi nous trois qui avaient avec l'IUT option handisport. Et du coup, parmi cette option-là, ils ont pu, eux, découvrir le handibasket. Mais du coup, on était trois ou quatre, à ne pas avoir du tout de connaissances sur ce domaine. Et c'est en pratiquant, en créant les séances, en parlant avec les profs de sport, en allant rencontrer le club, que là, on a pu se familiariser un peu plus avec ce sport. Et c'est pour ça que maintenant, on n'est pas non plus calé, mais on pourrait proposer des séances, faire des petits exercices.
Vous parliez d'intervenants, de rencontres incroyables. Du coup, avec lesquels est-ce que vous avez travaillé? Quels sportifs aussi, s'il y en a eu durant ce projet? Est-ce que ces personnes-là étaient réceptives à votre sollicitation?
Alors oui, du coup, les premières personnes qu'on allait voir, du coup, c'est le club de Chambray. On est allé assister à leur match contre Angers. Et puis, suite à ça, on a continué de dialoguer avec eux. On a pu avoir la chance d'avoir Nesta et Vidal qui sont intervenus au collège. Et du coup, grâce à eux, on a pu faire des séances, on a pu apprendre aux jeunes, enfin, ils ont pu surtout apprendre aux jeunes des techniques pour les matchs, pour faire des passes. On a fait plein d'ateliers, enfin, c'était hyper enrichissant et les jeunes étaient hyper motivés. On a également eu une athlète handi-danseuse qui s'appelle Delphine Niveau, donc avec elle, on avait travaillé en amont une chorégraphie pour ensuite faire un flash mob avec les collégiens. Donc pareil, ils étaient très motivés et dès que en fait, les intervenants prennent la parole, ils sont tout de suite captivés. Donc ça, c'était chouette. Et on a aussi eu la chance d'avoir un autre handi-athlète qui s'appelle Denis Piciota avec son guide Guy Bessé. Et il est malvoyant et en fait, c'est un athlète handi pour le javelot. Et on a pu faire un temps d'échange, un temps de parole entre lui et les collégiens qui ont pu du coup poser des questions. Et pareil, c'était des questions très ouvertes parfois sur le salaire ou alors sur ses... comment il vit chez lui, s'il a été champion de France, enfin, très très vaste. Et Denis était hyper ouvert, c'était vraiment pour les élèves hyper enrichissant d'avoir quelqu'un qui puisse répondre sans gêne et très ouvertement. Quoi.
Et comment elles se sont passées ces interventions dans le collège? Est-ce que Nesta, tu veux nous en parler, toi qui étais là-bas?
Moi du coup j'en ai fait qu'une pour l'instant, a priori ce sera la seule jusqu'au temps fort, mais voilà. Et ça rejoint complètement ce qui vient d'être dit. Les enfants ont été très intéressés, très à l'écoute. Ça m'a limite un peu surpris. Moi, on m'avait parlé d'une classe de quatrième. Je n'avais pas souvenir d'être comme ça en classe de quatrième. Donc, c'était très agréable de travailler avec eux. Effectivement, beaucoup de questions qui peuvent surprendre. On nous avait prévenu un petit peu à l'avance. Donc, ça avait pu être géré. Et puis voilà, les exercices étaient bien mis en place. C'est dommage qu'il manquait un peu de fauteuil, mais tous les enfants étaient prêts, étaient contents de venir jouer. Donc ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci.
Donc il manquait de fauteuil pour que tous les élèves puissent tester une situation de handicap, c'est ça?
Bah en fait, sur nos séances, on a 11 fauteuils et ils sont 22. Et en fait, on a 11 fauteuils parce que on peut pas
c'est
en
déjà,
jouer.
Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup comme matériel.
C'est déjà beaucoup parce qu'en fait, les fauteuils, ils sont à notre prof de sport qui lui les avait achetés en 1993, donc le fauteuil il date un peu. Mais du coup, on a la chance d'en avoir. Et on en aura 22 réellement le jour du temps fort, parce que bah, pour en louer ou pour en prendre, c'est toujours compliqué, ça coûte super cher. Donc déjà, on fait avec ce qu'on a et les enfants sont hyper contents, quoi.
Et donc le handibasket, ce n'est pas le seul sport que vous avez fait découvrir. Il y a aussi la cécy pétanque, donc dans les conditions de personnes non-voyantes, et la handidance. C'était important pour vous d'explorer plusieurs disciplines avec les élèves ?
Je pense que pour nous et pour eux, ça a été une richesse, en fait, de pas simplement... Je pense qu'on part sur un milieu qui est assez encore méconnu, malgré tout ce qui était, du coup, Jeux paralympiques, etc., où on a vraiment commencé à voir que ça existait. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, et le fait que ce soit aussi une diversité, mais pas seulement de la performance ou vouloir que les élèves deviennent forts en un sport, c'était aussi voulu, puisque on pensait que connaître finalement la cécy pétanque, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui ont pu dans leur vie jouer et encore moins voir. Et les élèves, on a ressenti et on a eu la joie de voir que ça les intéressait et aussi qu'ils avaient cette envie de connaître et qu'ils avaient encore plus de questions avant de jouer que finalement après jouer. Donc que ce soit cécy pétanque ou handi danse, puisque on avait quand même un projet et c'est quand même assez difficile de mettre en place un flash mob de 22 élèves en même temps et sur 3 minutes de musique. Sur le coup, on s'est dit ça va être très très compliqué et on se rend compte que les élèves qu'on a ont vraiment cette envie et ce vouloir bien faire. Et là, en fait, pour dans une semaine, on est absolument prêt, alors que quand on a inventé, du coup, quand on a créé avec Delphine Niveau, du coup, ce flash mob, on s'est dit déjà pour nous c'est très très compliqué, alors pour eux encore plus. Donc cette envie de vouloir faire découvrir plusieurs sports aux collégiens fait que ça leur a permis d'augmenter leur connaissance du sujet et de pouvoir balayer un petit peu tout ce qui est du champ du possible. Et puis on se rend compte que pour le coup, ils nous le disent à chaque fois que c'est absolument top qu'ils aient pu tester des choses et qu'on ait mis tout ça en place. Donc, c'est absolument pas un choix qui est raté. Et je pense que c'est un choix qui est payant de pas seulement vouloir qu'à chaque séance, ils se mettent sur les fauteuils et ils jouent, mais aussi de leur faire découvrir d'autres sports, des intervenants et finalement, peut-être une passion pour certains, on espère en tout cas.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est du coup beaucoup centré sur le handibasket du coup en fauteuil, mais leur faire découvrir la cécy pétanque, du coup c'est un autre handicap, ils sont malvoyants, du coup ils avaient des masques où ils pouvaient pas voir, donc c'est autre chose que d'être en fauteuil, et c'est ça aussi qu'ils aiment, c'est diversifier les activités et découvrir en fait toutes les sortes de handicaps, même si on n'a pas pu découvrir non plus beaucoup, mais les principaux, et ça leur plaît, quoi.
Et dans la réalisation, dans la conception de ces séances pour les collégiens, c'était quoi la chose la plus compliquée à mettre en place?
Pour moi, je dirais la chose la plus compliquée, c'est en fait de faire, de leur faire plaisir en mettant nous aussi ce qui nous fait plaisir. Par exemple, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais moi, j'aime beaucoup faire des ateliers passe au handibasket, par exemple. Et si je mets par exemple beaucoup d'ateliers passe, est-ce que ça va aussi leur faire plaisir ou pas? Et du coup, ce qui est compliqué parfois, c'est de pouvoir diversifier au maximum une séance. Parce que par exemple, là, c'est si pesant qu'on n'avait qu'une seule séance, donc diversifier beaucoup, c'est compliqué. Et du coup, des fois, savoir faire des choix, restreindre un peu les choix des ateliers, c'est parfois compliqué parce qu'ils sont très curieux. Ils veulent toujours en demander plus, faire des matchs tout le temps. Donc pour leur faire plaisir et tout mettre comme atelier, c'est compliqué.
Et est-ce que vous avez été aidé par un professeur de PS?
Donc oui, Thomas Debord, du coup, qui est professeur là-bas depuis plusieurs années, je pense.
Ouais.
Qui nous a aidés, notamment, je pense, dans les interventions qu'il a eues auprès d'eux quand c'était beaucoup plus compliqué de, par exemple, canaliser leur énergie, etc. Ou même à certains points clés, par exemple, de la séquence, nous dire, alors du coup, là, vous avez bien fait. Peut-être que vous êtes un peu trop rapide sur certains points, peut-être, mais en tout cas, notre souhait, et qui a été absolument respecté, que ce soit par lui et par les élèves, c'est qu'on prenne la place, notre place là-dedans, et que nous, sept, on puisse animer tout le cours. Donc finalement, il a un rôle, et qu'il nous répète assez souvent, qui est en vrai assez dur pour lui, puisqu'il voudrait toujours être avec les élèves, pouvoir faire son rôle de professeur, parce que d'habitude, il est tout seul. Et là, de faire place à cet étudiant qui arrive avec des projets nouveaux, des nouvelles manières de faire, de nous laisser champ libre alors qu'il aurait besoin d'intervenir, je pense que ça a été très bien pour nous, mais aussi très bien pour lui.
Ouais, parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que du coup, lui, il a une posture d'enseignante et nous, une posture d'animateur. Donc nous, on aurait tendance à les laisser tout le temps courir partout, voire être libre au maximum. Tandis que les cours de PS, c'est plus, là, on s'assoit, on écoute les consignes, et après, on fait. Alors que nous, du coup, c'est ça, des fois, qui est un peu compliqué. On n'arrive pas trop à les canaliser parce qu'ils ont leur rythme, leurs habitudes. Et nous, on en apprend des nouvelles, enfin, d'autres. Du coup, ça aussi, parfois, c'est un peu compliqué. Mais il sait faire... il respecte complètement notre travail qu'on fait. Et dès qu'il a besoin d'intervenir, qu'il voit que ça déraille, là, il n'hésite pas, quoi. Il a raison.
Et disons que, en tant qu'animateur aussi, excusez-moi.
C'est vous qui avez la parole.
En tant qu'animateur aussi, on a normalement un rôle qui est celui de l'après-école. C'est-à-dire qu'à l'école, ils ont vraiment un enseignement et des savoirs, des apprentissages à connaître, mais que ce soit très théorique ou pratique, mais en tout cas, quelque chose d'absolument défini. Alors que nous, on arrive un petit peu tout chamboulé, avec plus, en tout cas dans notre tête, cette envie de pouvoir les grandir en tant que personne et peut-être pas en tant qu'étudiant ou en tant que scolaire seulement, et le fait qu'il profite, etc. Mais je pense que parfois, c'est là où je dis que c'est compliqué pour lui de voir qu'il puisse profiter en allant sur les tapis, machin, etc.
C'est partout.
Parfois, c'est plus compliqué. Ouais.
Et est-ce que dans vos parcours personnels, maintenant, la médiation peut-être par le sport et le handisport, c'est quelque chose que vous aimeriez développer ?
Alors, pour ma part, oui, carrément, parce que quand je vois les élèves, ils sont tellement énergiques et c'est de la bonne énergie. Et en fait, avec ça, ils peuvent faire tellement de choses et c'est hyper agréable de les voir se dépenser et prendre du plaisir en même temps. Et je pense qu'à travers le sport et même juste des activités physiques, on peut faire plein de choses, découvrir plein de... Juste en faisant un jeu, on peut mettre du sport, on peut le caler partout. Et je pense qu'en animation, c'est hyper intéressant de faire ça, quoi.
Ou en tout cas, faire que... Moi, je n'ai pas forcément envie de partir dans ce milieu-là, mais ça aurait été riche d'enseignement, puisque finalement, on se rend compte que dans chaque animation ou quoi, on peut mettre un petit peu de ce qu'on a appris là, et en tout cas, un petit peu de sport. Moi, je...
Oui, c'est ça, c'est un projet dans lequel tu piocheras aussi des ressources.
C'est une chance aussi au niveau de tout ça. Ouais.
Merci à vous pour cette présentation. On va y revenir juste après une pause musicale, donc sur le 99.5 FM, pardon, Radio Campus Tour. Qu'est-ce qu'on va écouter, Samuel ?
On va écouter Faith de Dev by Peanut, Amina, Moises Youfi et Noah Farbringer.
Stuff I gotta say. Stuff I got to say, yeah. Sweeten the pain, sweeten the stuff I got to say. The things in my healing, the stuff I can't see, the pain in my healing, and I gotta see it. Fade. I gotta say. How do you use your mind when your soul has to pay? Yeah. And I got something to say in my native OC.
En fait, j'étais captivée par ce que faisait Samuel, pardon. Donc, vous venez d'écouter Faced par Death by Peanuts sur Radio Campus Tours. Et nous poursuivons cette émission aux côtés de Mathis Yulan en BUT Carrière Sociale, ainsi que Manon, Benjamin et Nesta du Club Bulldog Handi Basket de Chambray-les-Tours, donc pour la mise en valeur d'un projet d'animation autour du Handi Basket. Et je rectifie rapidement mon erreur précédente qui était de dire que le temps fort de ce projet allait être le mercredi 17 décembre, alors que le 17 décembre, c'est bien un mardi. Voilà, véhiculer de l'intox, ça c'est fait. Pour revenir donc sur ce projet, quelle prise de conscience est-ce que vous avez remarqué chez les collégiens ?
Alors, je pense qu'ils ont pris, ils ont une prise de conscience sur les difficultés qu'il peut y avoir, notamment en se déplaçant en fauteuil, parce qu'on avait fait un parcours urbain dans le collège avec différents lieux, la cour, la cantine, le CDI, les couloirs avec les élèves. Et je pense qu'ils ont pris beaucoup de difficultés à le faire, parce que, par exemple, c'est tout bête, mais les mini-rebords sur les portes, bah, en fauteuil, mine de rien, c'est pas facile à prendre. Ou alors, des fois, il faut monter en se tournant à l'arrière avec le fauteuil. Et tout ça, en fait, ils nous ont dit que c'était un peu compliqué, mais que justement, ils voulaient le refaire en fin de séquence pour voir, en fait, leur amélioration. Et je pense que c'est un des points qui était le plus difficile pour eux. Après, Mathis, je sais pas si t'as...
Moi, je dirais que la grande prise de conscience, elle a été faite au niveau de la pratique. C'est ce qu'ils demandent et c'est là où ils s'éclatent, finalement. Mais il y a aussi une grande prise de conscience qui a été faite avec la richesse des interventions, ouais, notamment de Nesta, Vidal, Denis et voilà, et les, ouais, et Delphine, qui ont fait qu'en fait ils ont eu les réponses à leurs questions, des questions qui pouvaient leur venir, mais en fait on s'est rendu compte que même là-dessus ils étaient hyper investis et qu'ils s'interrogeaient vraiment là-dessus, puisqu'en fait ils connaissent peut-être personne qui est en situation de handicap.
Ouais, ça les intrigue.
Ou voilà, ça les intrigue, et ils ont des questions que même nous on n'aurait pas eu, et que il y a eu aucun souci pour les intervenants d'y répondre. Et je pense que notamment les intervenants, après, ils sont venus, etc. Ils ont dit, c'était une des meilleures interventions, etc. Je veux pas les encenser trop, mais voilà. Et,
c'est important aussi, dire quand c'est bien.
Donc voilà. Et notamment parce qu'ils avaient des questions qui n'étaient jamais posées ou qu'ils n'avaient jamais eu des réponses là-dessus, c'était peut-être jamais posé. Et la prise de conscience, elle s'est faite aussi beaucoup sur le quotidien, sur la vie de famille, sur... sur beaucoup de choses, en plus du coup de la pratique que tu as pu dire, Yulan, du coup. Mais voilà, c'est un tout qui fait que ce projet-là va leur servir pour peut-être déstigmatiser. Mmh. Peut-être que pour eux, en fait, c'était des gens qui étaient reclus et sans famille et sans enfants. Et en fait, quand ils ont posé, bah, en fait, ils avaient des enfants et tout se passait bien, ils avaient une maison, ils vivaient seuls et voilà. Donc là-dessus aussi, je pense que ça leur a posé des questions qui était existentielle et qui leur a permis de grandir.
Et donc, du coup, votre démarche de sensibilisation s'étend aussi à la situation de handicap en général ?
Ouais, bah, en fait, on a commencé nos séances en les mettant en fauteuil et en faisant un parcours quotidien de quelqu'un qui n'est pas forcément handi-athlète. Et après, on a poursuivi sur les handi-athlètes pour leur montrer en fait que ce n'est pas parce que... quelqu'un est en fauteuil que c'est d'autant plus compliqué de faire son sport. Enfin, et ça, en fait, ils l'ont vraiment compris Par exemple, en faisant un match avec Vidal et Nesta, ils arrivaient à faire des passes, ils arrivaient à avancer. Bon, après, c'était pas non plus un niveau extrême, mais pour eux qui n'en avaient jamais fait, c'était quand même quelque chose. Quoi. Ça, ils étaient fiers.
Et est-ce que dans votre formation en carrière sociale, le handicap, ça fait partie de vos enseignements? Alors, vous disiez qu'il y avait une option handisport, mais est-ce que la situation de handicap est intégrée dans votre formation?
À part l'option... Je crois pas, à part là en deuxième année on a deux parcours, on a un parcours corps et un parcours culturel, et il me semble que dans le parcours corps on aborde la notion du handicap, ouais. Mais ouais, du coup c'est plus en deuxième année qu'en première année en tout cas.
Finalement, assez peu l'handicap physique, je dirais qu'on a eu notamment un cours sur l'handicap mental,
la psychologie,
les difficultés psychomatiques, je sais plus comment on dit, mais...
psychomotrice,
mais disons la dépression, les problèmes cognitifs, voilà.
Tout ce qui est
dépression, tout ça. Je pense que là-dessus, on en apprend beaucoup plus que finalement sur l'handicap physique.
Ouais,
voilà, en tout cas.
Et donc, maintenant, on va passer au club. Manon, Benjamin et Nesta, est-ce que vous pourriez nous conter la petite histoire du club? Et aussi, on voudrait savoir, ça fait combien de temps que vous y êtes?
Alors, moi, du coup, je suis au club depuis... Ça va faire ma quatrième année au club. J'ai découvert le handibasket avec ma rencontre avec Benjamin, en fait. Donc, on est ensemble depuis 4 ans et du coup, j'ai découvert le handibasket comme ça. Et donc, cette année, j'ai repris la coprésidence, en fait, du club. Donc, voilà pour moi.
Moi, du coup, je suis joueur de basket principalement. Je fais aussi un peu partie du bureau. Mais moi, j'ai découvert le basket il y a maintenant à peu près 7 ans. Et en tous les cas, 7 ans que je fais le championnat de France en national.
Et du coup, moi, de mon côté, ça va faire 4 ans aussi, je crois. Je ne sais plus très bien.
On est arrivés en même temps, voilà. Dans mon souvenir.
Très bien. Voilà. Moi, de mon côté, je ne fais pas les matchs. Mais voilà, ça me fait aussi un bon bol d'air dans la semaine. 2 heures d'entraînement le mercredi soir. En plus, en général, on en voit bien. Donc, ça fait plaisir.
Quels sont les profils des joueurs du club et les critères de recrutement?
Alors les critères, c'est intéressant dans le handibasket parce que le handibasket, c'est un peu le père des handisports. C'est le premier handisport qui a été créé, wow, officiellement. Et c'est un sport qui est ouvert à absolument quasiment tous les types de handicap tant qu'on peut déplacer un fauteuil. Et surtout, c'est aussi ouvert aux valides. C'est un sport où on peut jouer en championnat de France en tant que valide dans un fauteuil avec les personnes handicapées. Donc c'est un sport qui est extrêmement inclusif. En France, c'est un sport mixte, même en championnat de France, ce qui est une plus-value énorme. Et c'est surtout que le système de notation des joueurs, quand on joue au basket, on a une note en fonction de notre handicap.
De 1 à 5, si je me trompe.
Voilà, de 1 à 5. Donc 5, c'est une personne valide. 1, c'est le handicap le plus lourd. Et ce qu'il y a, c'est comme on doit être à 15 points sur le terrain avec les 5 joueurs, ça a la nécessité en fait que tous les handicaps soient indispensables. C'est-à-dire que le moins handicapé a forcément besoin d'une personne plus handicapée pour pouvoir jouer sur le terrain. Et ça apporte la vraie beauté de ce sport, c'est que tout le monde est indispensable.
Et dans la beauté de ce sport, justement, quelle valeur véhicule le handibasket?
Je pense que la valeur principale qu'on peut trouver dans le handibasket, c'est déjà de se détacher de l'aspect handi et de garder l'aspect sport. Ça reste un sport d'athlète, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui qui vient essayer le handibasket, et je vous y invite parce qu'on y est très, on est très ouvert au fait que n'importe qui puisse essayer justement le handibasket. Et c'est vraiment une discipline qui est extrêmement complète. Ça demande et une cohérence et une musculature très développée. Et donc je pense que ce qu'on aime avant tout, en fait, c'est vraiment présenter nos joueurs à titre d'athlète avant d'être des para-athlètes.
C'est magnifique. Quels sont les principaux rivaux du club avec lesquels vous avez eu des rivalités sportives?
On parle que de rivalités sportives. Alors les rivalités sportives, nous là on fait le championnat de France de National 3. Donc on joue grosso modo de Cherbourg à Nantes et jusqu'à Tours. On est actuellement 7 équipes sur cette poule de championnat. On a la chance d'être en tête, on fait une très très bonne année là. Aujourd'hui on va avoir de la rivalité avec le club de Quimper par exemple, qui joue la deuxième place, avec qui on fait des matchs très soutenus, mais ça va aussi avec Niort, Lannion, Angers et jusqu'à Cherbourg avec l'équipe des Cadreville. Donc on se déplace beaucoup pour pouvoir jouer. Ça représente quand même 14 matchs dans la saison, dont 7 à Chambray.
Et donc, une question qu'on n'avait pas marquée, y a du monde qui vient vous voir?
Alors ça, c'est assez aléatoire. Mm-hmm. Le problème principal qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas au sein du club quelqu'un qui est très formé à la communication. Ouais. Donc c'est vrai qu'on fait un peu comme on peut, en fait, pour diffuser donc, nos dates de match, les lieux de match. On a donc un compte Instagram, on a un compte Facebook. Tous les membres du bureau ont accès à ces comptes-là. Donc on essaye tous plus ou moins d'alimenter ça. Mais c'est vrai que, bon, alors, à domicile, ça va dépendre, mais on tourne autour d'une vingtaine, trentaine maximum de personnes qui viennent voir. Et puis c'est souvent les familles de joueurs, les amis, nos cercles, en fait, assez proches. Et on a aussi, en fait, pas mal de personnes en situation de handicap aussi qui viennent, qui sont curieux, qui connaissaient pas justement l'existence de notre club et qui viennent se renseigner, qui viennent observer. Mais voilà, sur la quantité, je pense qu'on n'a jamais dépassé la trentaine de personnes. Donc, mais je pense que c'est aussi un souci de communication qui n'est pas faite forcément de façon optimale. Et du coup, on n'a pas...
Plus c'est national.
Là, et on n'a pas. Mais c'est vrai qu'on a plus de monde quand on est à domicile que, par exemple, à l'extérieur en général, à moins que ce soit très anticipé par le club adverse. Voilà, il n'y a pas énormément de monde, en fait.
Et quelles seraient les grandes réussites ou les moments marquants du club? Oula, j'ai du mal aujourd'hui, pardon. Ou les moments marquants du club dans son histoire?
Dans son histoire, le club, alors déjà, il y a un retour à la compétition il y a à peu près 5 ans, à la compétition, à plus être dans le loisir, mais être vraiment dans la compétition nationale. Donc ça a été un des tournants du club dernièrement. Il y a mine de rien le Covid, où on a eu extrêmement peur, parce que le club, on s'est retrouvé à s'entraîner quasiment à 3 joueurs pour le Covid. Donc on a eu un peu peur de la mort du club, et je pense que le super rebond, c'est après le Covid, où aujourd'hui, on doit être un des plus gros clubs de la région et dans les gros clubs français même, étant donné qu'on est 20 inscrits. Pour un club handisport, il faut savoir que c'est beaucoup plus sélectif d'avoir des joueurs, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des joueurs qui vont vraiment performer dans le basket, et aujourd'hui avoir une vingtaine de joueurs, c'est un club colossal.
Et qu'est-ce qui a créé l'impulsion qui a fait que d'autres joueurs vous ont rejoint?
C'est une excellente question dont j'ai absolument pas la réponse. Non, je saurais pas dire. C'est vrai qu'on a souvent des attentes sur des retombées. Là, c'est vrai que les Paralympiques, on s'est dit, on va surfer sur cette vague-là, ça va être top, les gens vont en voir à la télé, ça va tout changer. Et pour l'instant, ça a rien changé du tout.
Ouais, donc ça, c'est,
en fait, ni en retombée de sponsors, ni en public, ni en joueurs. Aujourd'hui, ça retombe un peu comme un soufflet, en fait. Et alors, nous, c'est vrai qu'on essaie d'alimenter un petit peu cette vague-là, parce que le club est en souffrance financièrement. Tous les clubs de handibasket sont en souffrance. Hein. C'est un sport qui est onéreux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la location des fauteuils, par exemple, que c'était extrêmement cher. Nous, on ne les loue pas, on les achète. Un fauteuil, aujourd'hui, ça vaut entre 5 et 9 000 euros.
Ah oui.
Une saison de championnat, ça vaut 10 000 euros.
Et enfin, l'entretien, du coup,
il y a de l'entretien, il y a des pneus. Bah là, par exemple, le club, on est en train d'essayer de faire des appels aux dons pour changer les pneus des fauteuils qu'on a au club. Rien que là, pour 20 joueurs, il y a 1 500 euros de pneus. Donc voilà, c'est vite une souffrance, le financier. Et c'est vrai qu'on espérait que le handisport réveille un petit peu les comités départementaux handisport, les communes et autres. Et bon, pour l'instant, ça a plus été un effet politique que réel dans les retombées du sport.
Et comment, alors j'ai vu qu'il y avait une cagnotte, comment est-ce qu'on peut aider le club?
Alors la cagnotte, on l'a mise en place, en fait ça a été un peu inédit, on a changé donc le bureau du club cette année. Normalement, en fait, dans un bureau, on va dire classique, il y a 3 membres, donc président, secrétaire et trésorier. Et cette année, on a fait un peu inédit, on a décidé d'agrandir en fait le bureau et de tous se répartir en fait des tâches. Donc c'est pour ça qu'on est 2 présidents, donc Régis Selot et moi-même. On a donc deux membres sur la trésorerie, on a 2 membres sur le secrétariat. En fait, on a essayé vraiment de faire des binômes, en fait, sur tous les domaines à traiter. Et du coup, en fait, l'idée est venue cette année d'ouvrir une cagnotte Litchi, parce qu'en fait, on avait déjà eu l'idée les autres années, mais c'est vrai que je pense qu'on a... Il y avait ce côté où on ne se sentait pas légitime de faire cette demande auprès de notre entourage, parce que c'est malheureusement principalement notre entourage qui a participé à cette cagnotte. Mais puis on n'a pas eu le choix aussi de se dire qu'en fait, si on ne faisait pas un appel aux dons, ça aurait été la dernière année du club, en fait.
Il y a déjà plusieurs points qui ont été mentionnés, notamment financiers. C'est à quelles difficultés le club fait face principalement?
Les difficultés principales, elles sont toutes liées en fait malheureusement à l'aspect financier, parce que il nous manque un entraîneur. Sauf que pour avoir un entraîneur, il faut qu'on le paye. Il y a une formation donc spéciale handi basket qui est proposée, mais qui est payante aussi, et qu'on doit donc payer à quelqu'un qui pourrait être potentiellement intéressé pour nous entraîner. Il nous manque un véhicule donc adapté à des personnes en situation de handicap. Pareil, le coût d'un véhicule qui serait adapté pour nos joueurs, c'est une somme une somme astronomique. On ne peut pas se le permettre. Donc pour nos déplacements, ça va être le remboursement des frais kilométriques, mais même ça, on ne peut pas. C'est très compliqué en fait de mettre ça en place. Donc on est obligé de louer un véhicule, d'être tous dedans. Et puis voilà, donc en fait entre l'entraîneur qui nous manque, le véhicule, voilà, en fait c'est toujours la question est toujours la même, on revient toujours à l'aspect financier quoi.
On en sait déjà plus sur le club, merci à vous. Faisons une petite pause musicale sur le 99.5 Radio Campus Tours. On écoute Pattern 6 du grenoblois Binary Digit, qui a sorti son album Summer 5 ou V.
Summer 5, Summer 5, ouais, Summer V. Summer chiffre romain 5.
C'est octobre dernier. Thank you.
C'était Pattern 6 de Binary Digit sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez, et avec nous Mathis et Yulan en BUT Carrière Sociale, ainsi que Manon, Benjamin et Nesta du club Bulldog Handibasket de Chambray-les-Tours. Quelles sont les plus grandes satisfactions que vous tirez de la pratique de ce sport ?
Ah bah, on peut te laisser répondre, Nesta.
Eh bien, tout simplement, la pratique de sport. Pour commencer, c'est-à-dire que surtout en fonction du handicap, ça peut être compliqué d'avoir une pratique sportive. Ça apporte déjà ça, le fait de 2 heures par semaine, on bouge, ce qui est très important. Dans le cadre du basket, c'est aussi un sport collectif. Avec un groupe. Moi, je suis très content d'aller les retrouver tous le mercredi. Des gros cœurs. Et voilà. C'est déjà ça que ça apporte. Et ensuite, ça permet de se perfectionner dans sa pratique. Moi, je regarde énormément de basket, qu'il soit valide ou non. Et c'est agréable de pouvoir pratiquer ce qu'on regarde.
Oui, je rebondis sur ce que dit Nesta. Moi, c'est vrai que je joue un petit peu moins. Alors, je suis joueuse aussi. Comme Nesta, je suis plutôt, je fais pas les matchs en compétition. Donc, moi, je suis plutôt sur le loisir, donc le mercredi lors des entraînements. Et c'est vrai que souvent, du coup, j'ai un peu plus de recul au sens où, en fait, je les regarde beaucoup jouer. Donc, c'est vrai que, par exemple, l'évolution de Nesta en 4 ans, elle est folle. Elle est... Ah non, mais tu ne te rends pas compte, mais elle est folle.
Là encore, c'est bien de mesurer ses progrès aussi.
Voilà. Et c'est vrai que je le rejoins sur... Donc, déjà, ça reste la pratique d'un sport. Donc, oui, c'est du handisport, mais ça reste, du coup, un sport qui est aussi fatigant, aussi éprouvant physiquement que mentalement. Je pense qu'il a raison de dire que ça fait du bien, en fait, parce que même si ça... Donc, c'est pas tout le corps entier qui est sollicité, ça reste quelque chose de très physique, hein. Et je rejoins aussi Nesta sur le côté groupe, où c'est vrai que on a la chance d'être un groupe parce que vraiment on s'entend tous bien. Il y a rarement, on a rarement des soucis d'entente. Et je pense que c'est rare en fait dans des clubs sportifs où on peut vite se retrouver avec des situations un peu compliquées. Et nous, c'est vrai qu'on a la chance on n'est que 20, mais je pense qu'on s'entend tous bien. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi de se retrouver tous les mercredis. Et on a hâte, en fait, d'une semaine à l'autre, de se retrouver, quoi.
Et ce que disait Benjamin, c'est intéressant aussi le fait que, donc, comme c'est ouvert aux valides, c'est une pratique qui est très diversifiée. Et que donc les règles sont très, très similaires au basket traditionnel. Et que c'est aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai appris donc, aujourd'hui, qu'il y avait potentiellement d'anciens basketteurs aussi qui se retrouvaient pas mal dans la pratique du handi basket.
Notamment, on a 2-3 joueurs. Enfin, donc, on a Arthur et Pauline.
Surtout, ouais, Arthur, voilà. Et Pauline, qui sont d'anciens joueurs valides, qui ont les genoux en vrac, hein, je les cite, et qui, du coup, ont la possibilité, de par le basket en fauteuil, de continuer de pratiquer. Et globalement, ils n'en disent que du bien.
Ouais, c'est une chance pour eux, je pense. Et puis, c'est vrai que c'est génial, parce que, du coup, ils ont déjà... toutes les connaissances du basket valide, donc tout ce qui va être les règles, le shoot, ils ont un shoot tous les deux qui est quand même... Enfin, moi, je vois la différence avec moi qui n'ai jamais fait de basket avant. J'ai pas le même shoot qu'Arthur qui a fait des années de basket valide avant de se joindre au club. Donc, c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir des joueurs comme ça. C'est aussi une plus-value pour nous parce qu'ils peuvent aussi aider les nouveaux en se basant sur eux, les expériences qu'ils ont eues dans le basket avant. En fait, c'est assez enrichissant, quoi.
Et quel frein est-ce qu'on peut rencontrer au quotidien donc avec votre handicap ?
Mon handicap, moi je suis amputé d'une jambe. J'avais 20 ans des suites d'un accident de moto, ça fait maintenant un certain temps. Mon niveau de handicap, moi, il va me limiter dans les volumes de marche, vraiment, que je peux accumuler. Je ne suis pas capable de marcher 10 bornes. Mais j'ai la chance aujourd'hui que le matériel est extrêmement développé et d'être bien suivi en tant qu'ancien sportif. J'ai aussi un passé sportif avant le basket. Je suis extrêmement bien suivi par des prothésistes sur tour. Donc, en étant bien accompagné, moi, c'est vrai que mon handicap me paraît très facile par rapport à celui de mes coéquipiers. Et du coup, ça me permet aussi de faire la manutention pour eux, de me rendre utile.
Et est-ce que du coup, tu as pu diversifier ta pratique sportive aussi ?
Alors, en fait, le basket, c'était pour la diversifier. Moi, j'ai attaqué le basket pour rester très en forme dans le sport que je pratiquais. Moi, je faisais de la moto de compétition. Du coup, c'est un sport que j'ai abordé comme si j'allais à la salle de sport. Et je crois que le coup de foudre a pris 10 minutes, en fait. Et aujourd'hui, je ne fais plus de moto de course. Mais par contre, le basket, j'en ferai, je crois, tant que je suis capable de porter un ballon.
Et donc, est-ce que vous subissez beaucoup de stigmatisation au quotidien ?
Quotidien sur mon handicap, je suis pas convaincu après, mais moi, mon handicap.
Parce que les gens ont peur.
Oui. Grand. mon handicap, il est un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est, moi, voilà, je porte une prothèse, je me tiens debout, je marche. Aujourd'hui, de la stigmatisation, je pense pas. Qui plus est que moi, j'en joue. Mon pantalon est toujours remonté, ma prothèse, elle se voit, je m'en cache pas. C'est qui plus est moi. En plus, j'ai décidé de me faire amputer d'une jambe, donc c'est un parcours médical un peu particulier. Donc non, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas stigmatisé avec ça. J'ai plutôt la sensation que quand quelqu'un m'approche, il n'a pas de frein sur ce sujet-là. Donc je pense que justement, c'est un tri, je vais être vulgaire, mais un tri anti-con assez efficace.
Je vais te rejoindre un peu là-dessus. Mon point de vue, je pensais un peu différent parce qu'effectivement, Ben marche. Et entre nous, il a des belles allures de viking. Ça peut en repousser plus d'un aussi. Pour,
ça en décourage, je
pour
pense.
Des commentaires déplacés. J'y suis un peu plus sujet, mais d'une autre manière, moi, je m'amuse à noter les phrases qui peuvent être dites de temps à autre. J'ai aussi quelques éléments de langage que je ne dévoilerai pas ici pour répondre à ce genre de commentaires.
Qui ne sont pas radio-friendly.
Non, qui ne sont pas radio-friendly, malheureusement. Mais voilà, je les note, on en rigole avec des amis. Et puis, plus le temps passe, moins ça vous touche. Aussi, moi, voilà, j'ai 21 ans, ça doit faire 15 ans que je suis en fauteuil, et encore, je ne suis pas sûr. Au fil du temps, on se blinde, on arrête d'y penser, c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, dire que je suis stigmatisé, c'est plus. C'est pas par les gens, c'est souvent par les lieux. Il y a beaucoup d'endroits où je suis frustré de ne pas pouvoir aller. Encore hier, il y avait une intervention à la fac, dans un amphi. Les intervenants sont restés après la conférence pour échanger, et c'est tout con, mais tout le monde s'est regroupé en bas de l'amphi. L'amphi avait des marches, et j'ai pas pu interagir avec les intervenants. Ce sont des choses plus de cet acabit-là. Les gens aujourd'hui, pour moi, ne sont plus un problème vis-à-vis de mon handicap, parce que je suis à l'aise avec. Les marches, je peux pas les éduquer à me laisser descendre. Alors que les gens,
tu peux leur rouler dessus.
Voilà.
Et en quelle filière tu étudies ?
Moi, je suis en licence de littérature anglaise, LLCER, à la fac des Tanneurs à Tours. Je suis en troisième année.
Et donc tu viens de citer un des problèmes d'accessibilité à la fac. Est-ce que tu en rencontres beaucoup d'autres ?
Bon, ça dépend des sites, puisque le site des Tanneurs n'est pas le seul. Il y a le site du CESR.
Vieux bâtiment.
Voilà, ouais. Je vois dans tes yeux. non, pas du tout accessible. On avait un projet de programmation de séances de cinéma par notre classe dans un de nos modules. Et je n'ai même pas pu aller assister à la séance présentée par mes camarades et film sur lequel j'avais travaillé aussi au début. J'ai même pas pu aller les voir parce que c'est plein d'escaliers. Y a pas de,
donc voilà, ça t'arrive que des cours sautent à cause d'un manque d'accessibilité ?
Surtout les pannes d'ascenseurs. Et pour ne pas le citer, le site Fromont est souvent très sujet à des pannes d'ascenseur. Donc, ça dépend des professeurs. En L2, une fois, j'ai souvenir que j'avais un cours de... J'avais un cours là-bas, et la professeure a vu que je n'allais pas pouvoir monter, et elle a dit très bien, alors dans ce cas-là, je ne fais pas cours. Elle a dit bien. Si vous ne pouvez pas avoir cours, les autres ne l'auront pas non plus. Mais voilà, c'était il y a 2 ans, et depuis, il n'y a jamais rien re-eu de tel, et pour le coup. Depuis deux ans, des problèmes d'accessibilité, j'en ai rencontré plus que ça.
Est-ce que tu arrives à les faire remonter justement avec des enseignants sensibilisés à ces problématiques ?
Oui, alors il y a déjà le secrétariat de la fac par qui ce genre d'informations peut passer. Il y a aussi un référent en handicap sur la fac. Puis il y a également d'autres connaissances en fauteuil qui peuvent aider à faire passer les infos. Je pense à Ambre, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est membre de notre club aussi. Et on échange aussi beaucoup à ce sujet. Et pour finir, juste pour ne pas prendre trop de temps...
Non, pas du tout, tu fais tout le temps du monde.
Il y a aussi les problématiques liées aux examens et aux divers aménagements que ça peut représenter. Voilà, encore ce matin, j'avais un partiel. Je suis censé avoir des sujets sur informatique. Et là, ce matin, on s'est pointé avec un sujet agrandi. Alors, c'est très bien. Mais ça fait que, du coup, il y a une feuille que je n'ai pas vue, qui était restée... coller un peu derrière, et avec mes doigts je peux pas très bien défaire les feuilles quand elles sont serrées, je sais pas comment exprimer ça, et du coup il y a 4 questions que je n'ai pas pu faire de mon examen de ce matin. Ce sont des trucs tout con.
Ouais, mais ça finit par faire une multitude de petites choses
qui paraissent insignifiants, et voilà, c'est plus ce genre de truc moi qui me pose problème au quotidien vis-à-vis de mon handicap, c'est que ça se voit pas, mais c'est pas que les jambes. Et voilà.
Et qu'est-ce qui, selon toi, serait encore à améliorer dans l'accessibilité dans les lieux publics ?
Dans les lieux publics, des ascenseurs qui marchent, je vous en supplie, des ascenseurs qui fonctionnent, je n'en peux plus.
Donc beaucoup de manutention.
Alors à Tours, ça va, mais sinon, en général, les transports en commun sont encore très peu accessibles. On a de la chance, à Tours, le tram est entièrement accessible, ou quasiment entièrement. Les bus aussi ont des rampes, mais elles fonctionnent un peu une fois sur deux, on ne sait pas trop... maintenant ça va, parce qu'en plus de la rampe électrique il y a des rampes manuelles, mais c'est un peu toute une entreprise pour s'en servir, et puis j'ai pas de choses en tête, si vous en avez n'hésitez pas, mais voilà, je pense que si on se base là-dessus on a déjà de quoi faire.
Oh là là là. J'ai envie de poser ma question, mais je sais qu'elle va prendre du temps.
Fonce.
Il y a une bonne évolution à l'égard de l'handisport, notamment les audiences des Jeux paralympiques. Quelles ont été vos impressions par rapport à ces Jeux de cette année ? Et aussi, une question qui a fait un peu débat en France. Est-ce que vous considérez que la France est un pays sportif ? Voilà. Ou de sport, bon.
Alors les Jeux paralympiques, alors vraiment, moi j'ai vécu ça comme une fête qui soit autant diffusée que les Jeux valides, parce que c'était une première. Alors déjà, moi, en tant que sportif handisport, j'ai apprécié de pouvoir regarder les disciplines qui m'intéressaient, de pouvoir suivre le basket, par exemple, de A à Z, et de voir tous les matchs. Je pense qu'il y avait aussi une facilité au niveau des horaires. C'est que là, pour une fois, c'était pas l'autre bout du monde. Donc, on pouvait regarder ça en direct et c'était assez cool. Derrière, je vais parler surtout du basket parce que j'ai pas forcément la connaissance des autres sports et je les ai regardés en tant que touriste, quoi, comme tout le monde. Sur le basket, ça a été extrêmement révélateur de l'état de l'handisport français. C'est que c'était une des premières fois qu'ils se qualifiaient depuis les années 90, je crois, qu'ils ont perdu l'intégralité de leur match. Alors qu'on a un potentiel de joueurs énorme en France, mais une fois de plus, il n'y a pas de moyens mis en œuvre pour tout ça. Il n'y a pas un seul joueur qui peut tendre à être professionnel. Il faut savoir que, voilà, en France, on a tous un taf à côté. il n'y a pas les budgets dans les clubs, il n'y a pas de budget pour une équipe de France, c'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment pas eu de temps pour bosser ensemble. Je crois qu'ils ont joué une semaine ensemble avant les JO. Enfin, c'est, ils jouent tous sur le championnat, sur des équipes différentes. Et aujourd'hui, non, je ne peux pas dire que la France est un pays de sport. En tous les cas, de mon regard à moi de basketteur handicapé, c'est assez catastrophique. On a très, très peu de mise en œuvre possible. On a peu de développement possible. Et aujourd'hui, moi, voilà, le club de Chambry me tient à cœur. Ça fait longtemps que j'essaye de le pousser pour qu'on arrive le plus haut possible. Et aujourd'hui, c'est des moyens financiers et techniques qui nous bloquent et pas le niveau de mes joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est capable d'aller se propulser en National 2, voire même plus haut. Mais ben, c'est par faute technique qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'on n'a pas d'entraîneur, on n'a pas de moyens de déplacement, on n'a pas de moyens de communication, on n'a même pas une commune qui arrive à nous faire deux entraînements par semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on nous ouvre en fait les portes d'un gymnase 2 heures dans la semaine et c'est tout ce que nous fournit la commune. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir viser des performances.
Quels sont les projets et les prochaines actualités du club ?
Eh ben, ils se regardent mais personne ne répond. Du coup, le projet, bah déjà là on est à la moitié du championnat de France, donc déjà on a la tête de notre poule, donc c'est très cool. On va essayer de viser pour aller faire les Final Four à la fin de la saison, donc en avril. Dans les gros projets, il y a continuer à développer en fait tout ce qui est sensibilisation, c'est-à-dire qu'on essaye beaucoup de travailler avec des entreprises, avec des collectifs quels qu'ils soient qui ont envie de faire découvrir le handibasket, d'abord nous pour rentrer un petit peu d'argent, mais aussi pour faire développer un maximum en fait la visibilité sur notre sport et essayer de créer un vrai réseau de sponsoring en fait comme dans les clubs valides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'arrive pas trop à décortiquer le pourquoi des clubs valides de basket tourangeaux tournent avec des budgets d'1 million d'euros, des réseaux d'entreprises et autres, et qu'un club handi en national arrive pas à relever un réseau d'entreprise. Donc ça, je pense que c'est un des grands défis qu'on a à relever. Et on commence à être petit à petit un petit peu aidé. Donc c'est cool. On a vraiment espoir là-dessus.
Et une question qui s'adresse à tous nos invités du jour. Pour clôturer cette émission, s'il y avait une chose que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de la pratique du handibasket, ce serait quoi ? Ça en bouche un coin, non ?
Allons-y. Pour moi, s'il y a un truc à retenir, c'est venez voir. Venez voir, venez regarder, venez essayer, venez voir. Vous allez voir, c'est le handibasket, on peut essayer avec deux jambes, sans jambes, sans ce que vous voulez. C'est très cool comme sport.
Du coup, tu dis venez, mais tu dis pas quand. Et... c'est pratique. Donc, je complète. Donc, on s'entraîne, nous, le club Touraine Handibasket, le mercredi de 19h15 à 21h15 au gymnase d'Anguillaume de Chambray-les-Tours. Donc, je crois que l'adresse, c'est 10 rue Rollin-Pilin, c'est ça ?
À côté de la piscine.
Voilà, en face de la piscine municipale donc de Chambray. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'ouverture pour tous. Parce qu'on a, en fait, ça va être le retour principal des gens. C'est, alors, en premier, de nous dire, on ne savait pas que ça existait. Et la deuxième chose, c'est de nous dire, ah bah, comme c'était handisport, je ne pensais pas que ça pouvait me concerner. Or, ça concerne autant les valides que les personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient. Voilà.
Tu veux y aller ?
Pardon. Moi, je dirais de bien garder en tête, Ben l'a mentionné tout à l'heure, c'est un sport à part entière. Ne vous attendez pas à une balade de santé non plus. Vous allez repartir avec les bras en feu et des ampoules. ce sont des informations à savoir.
C'est important.
Ouais. Bah, du coup, pour rejoindre Manon, Enesta et Benjamin... intéressez-vous parce que nous, on n'avait aucune connaissance et on a été accueillis les bras grands ouverts dans leur club. On a pu essayer, on a pu échanger et vraiment, c'était un plaisir. On est reparti avec des courbatures, mais avec un sourire et des souvenirs incroyables.
Et moi, je dirais, du coup, pour compléter cette jolie ribambelle de bonnes choses, que comme les collégiens, je pense que maintenant, on est vraiment heureux d'avoir découvert et qu'on conseille vraiment à tout le monde de pouvoir rester ouvert là-dessus et de pouvoir garder des yeux d'émerveillement pour ce joli sport et tous les sports qu'on a en France et encore plus pour ceux qui sont proches de chez nous en tout cas.
Merci à vous pour cette belle émission. Comment est-ce qu'on peut retrouver le club du coup ?
Alors sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, notre page s'appelle Touraine Handibasket. On a un mail éventuellement, donc touraine-handibasket@gmail.com. Et voilà.
Et un petit rappel pour la dernière date.
Eh ben, du coup, pour le temps fort, on pourra se retrouver le mardi 17 décembre de 14h à 17h au gymnase René Despoux à Saint-Pierre-des-Corps.
Très bien.
Merci à tous les cinq.
Merci de nous avoir reçus.
Merci à vous, c'était très sympa.
Donc, place à l'agenda culturel. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, Samuel ?
Alors, ce vendredi 13 décembre, match du Tour Métropole Basket qui accueille Toulouse à l'occasion du championnat de National 1 de basketball. C'est au Halle Montconseil à partir de 20h.
Pour le Spot Région, le CNT, donc le Centre Chorégraphique National de Tours, propose 3 créations. Et le vendredi 13 et samedi 14, retrouvez Fabulé de Sofiatou Kosoko. La chorégraphe et danseuse a proposé à la danseuse Christiane Cordet et à la DJ Véronique Hubert de reprendre leur collaboration. Fabulé nous plonge dans un espace métaphorique qui interroge les concepts de sororité, de partage de territoire et de palabre. Vous pouvez retrouver donc Sofiatou Kosoko et le CCNT dans l'émission Sortez d'hier du 10 décembre sur notre site internet radiocampustour.com. C'est au CCNT donc à 20h au tarif de 5€ pour les détenteurs du PCE.
Le samedi 14 décembre, un atelier d'écriture slam par Monsieur Zerg et Yopo, fondateur de la Ligue de Slam de France et de la Meute Slam, vous invite à un atelier ludique et convivial pour s'initier à cette pratique contemporaine de poésie ouverte qui se soucie écriture et l'oralité. C'est à la bibliothèque municipale de Tours de 10h30 à 12h30 et c'est gratuit sur inscription. Il y a aussi le festival Metal Hardcore de Winter Rip à la Ville aux Dames. On y retrouve Analepsy, une exclue française qui font du slamming brutal death metal, j'ai bien dit. Spawn of Disgust, du Beatdown HSX et False Reality, du Trashin HSX, entre autres, à partir de 15h au tarif de 22€. Et enfin, ce samedi, Hakim Jemili part en tournée avec son nouveau spectacle au Palais des Congrès de 20h jusqu'à 22h au tarif de 39€.
Tout va bien, on bégaye beaucoup aujourd'hui.
Ouais.
Du samedi 14 au dimanche 15 décembre, donc le Cirque Théâtre Classico vous propose l'Odyssée prodigieuse. On suit l'histoire d'un jeune directeur de cirque, audacieux et passionné, qui rêve de restaurer la gloire de son héritage familial. En quête de l'attraction vedette qui changera sa destinée, il entreprend un voyage autour du monde à la recherche de talents incroyables et d'expériences époustouflantes. Donc chaque rencontre enrichit son aventure, révélant la diversité et la richesse des arts du cirque. Le spectacle se déroule près du Parc Expo et IKEA. Donc vous avez du choix avec de nombreuses représentations. Le samedi à 14h30, 17h et 19h30 et le dimanche à 10h45, 14h et 16h30 au tarif de 16€. Le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com et l'agenda que nous venons de citer sur notre compte Instagram, donc sortez-du-bas 99.5 FM. On se laisse sur une touche de musique avec Overthinking de Kesona, une artiste nantaise qui a sorti son nouvel album Early Birds en début d'année. Et nous vous souhaitons une agréable soirée. Morning feel like heaven endlessly dream. Travel in a place where time can be tricky, where I can feel your bleed. I can feel me think. I've tried to take in my space. I've moved place to place, lock myself for some peace. R.I.P. Insta pic, social rest and then session. Try to live at my pace and I'm trying to focus on me. But I'm tied up with my will. Cause I know all they stick the ground in my feet. Heaven knows I need that, but I know how heavy they used to sit. I'm trying to be careful with that weight on me, that weight. So try to be careful with the way you leak. Try to be. I'm trying to be careful with that weight on me. So try to be. So try to be careful with the way you lead. You careful with the. I can't afford the tumble. I know my peace ain't mumble, so don't play with my struggle. Don't pressure my ankles. I can't afford a rush. I'm trying to figure how much. How often should we keep in touch? Overthinking and stuff. I can't afford the stress, so I lean on myself. So I seek the remoteness till I can't feel my face. I swear when I get that bug, I buy me a rocket, then I fly out to space.
wrong with that way. So to the beat. So to the beat. Careful with the way you lead. You. Careful with the way. Me. So to the beat. Careful with the way you lead.
Overthinking.